juste une tranche de millefeuille. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio, en compagnie de Christine. Le millefeuille serait-il de retour ? Oui et non, puisque cette rentrée voit naître une version réduite du millefeuille, une réduction en quelque sorte. Une émission concentrée sur une œuvre littéraire autour de deux extraits qui vous en seront lus. Alors, pour cette première de « Juste une tranche » de millefeuille, je vous propose de mettre à l'honneur non pas un des tout derniers livres de la rentrée littéraire, on va laisser décanter un peu si vous voulez bien et résister aux multiples tentations qui se présentent, mais un récit de Nastassia Martin qui est paru en 2019 et que vous trouverez aujourd'hui en poche. Il s'agit de « Croire aux fauves ».
C'est vraiment ce passage par la littérature qui m'a permis de me libérer à la fois de cette histoire pour pouvoir écrire la suite, hein, mais aussi de partager la quête du chercheur en tant que tel. C'est-à-dire comment on fait face à ces expériences limites pour sans cesse faire un pas de côté, se donner les moyens de faire un pas de côté et de ne pas être d'emblée ressaisi dans des cadres symboliques qui finalement ne sont plus assez ouverts pour saisir ce que le monde est en train de devenir. Et donc c'est ce mouvement du chercheur de tout le temps faire un pas de côté, se donner les moyens d'être réflexif et aussi de laisser planer le doute sur, c'est ça, ne pas fermer le sens, c'est-à-dire laisser planer le doute sur la manière de se ressaisir véritablement de cette expérience. Finalement, c'est un chemin, c'est une méthode, mais c'est sûrement pas une leçon existentielle que l'on donne à la fin.
C'est donc Nastassia Martin que nous venons d'entendre avec un extrait du podcast « L'invité culture » de France Culture, diffusé le 1er février 2020 et qui s'appelait « J'ai vu l'ours en moi ». Et pour ne rien changer aux bonnes vieilles habitudes, je vous propose de découvrir le récit « Croire aux fauves » avec le tout début du livre. Automne. L'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant, et moi j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine aux traits disparus sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance, puisque ce n'est manifestement pas une mort. Autour de moi, des touffes de poils bruns solidifiés par le sang séché jonche le sol, rappelle le récent combat. Depuis 8 heures, peut-être plus, j'espère que l'hélicoptère de l'armée russe va percer le brouillard pour venir me chercher. J'ai garrotté ma jambe avec la lanière de mon sac quand l'ours s'est enfui. Nicolas a aidé à me bander le visage lorsqu'il m'a rejointe. Il a vidé sur ma tête nos précieuses réserves de spirte qui ont coulé le long des joues, avec les larmes et le sang. Depuis, il m'a laissé seule. Il a pris mon petit Alcatel de terrain pour appeler les secours du haut d'un promontoire en pensant sûrement au réseau incertain, au téléphone antique, aux antennes lointaines. Que tout cela fonctionne parce que les volcans nous encerclent, eux qui célébraient il y a quelques instants seulement notre liberté et qui scandent à présent notre enfermement. J'ai froid. Je cherche mon sac de couchage à tâtons, je m'emmitoufle comme je peux. Mon esprit part vers l'ours, revient ici, tourne, construit des liens, analyse et décortique, fait des plans de survivants sur la comète. Dedans, cela doit ressembler à une prolifération incontrôlable de synapses qui envoient et reçoivent des informations plus rapidement que jamais. Le tempo est celui éclatant, fulgurant, autonome et ingouvernable du rêve. Pourtant, rien n'a jamais été plus réel ni plus actuel. Les sons que je perçois sont démultipliés. J'entends comme le fauve. Je suis le fauve. Je me demande un instant si l'ours va revenir pour m'achever, ou pour que je l'achève, moi, ou bien pour que nous mourions tous les deux dans une ultime étreinte. Mais déjà, je sais, je sens que ça n'arrivera pas, qu'il est loin maintenant, qu'il trébuche dans la steppe d'altitude, que le sang perle sur son pelage. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même, nous nous ressaisissons de nous-mêmes. Lui sans moi, moi sans lui. Arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l'autre. Arriver à vivre avec ce qui y a été déposé. Croire au fauve est donc paru aux éditions Verticales en 2019 et il a été couronné de 4 prix en 2020. Le prix Joseph Kessel, le prix Macorlan, le prix François Sommer, ainsi que le prix du réel. Pour ma part, j'ai d'abord découvert l'existence de ce livre à travers l'adaptation théâtrale qui en a été faite par la compagnie Les Arts aux Heures, avec une représentation que j'ai vue en juin dernier. Sa particularité était que la pièce ne se jouait pas sur un plateau, mais dans les bois, la nuit. Cette adaptation, c'est ce qui m'a donné envie de lire le récit initial. La quatrième de couverture de Croire aux fauves résume extrêmement bien le propos de l'autrice. La voici. Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent les failles sur leur corps et dans leur tête, c'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité, le jadis qui rejoint l'actuel, le rêve qui rejoint l'incarné. Croire au fauve, ce n'est pas le lambeau de Philippe Lançon. J'aurai l'occasion de parler de ce livre dans une autre émission, même si c'est bien aussi une histoire de reconstruction et un récit autobiographique. Mais ici, c'est celui d'une nouvelle naissance au monde. Monde que je créerai au pluriel concernant Nastassia Martin. Et dans Croire aux fauves, je vous rassure tout de suite, nous ne sommes pas dans The Revenant, le film où Leonardo DiCaprio, qui interprète le rôle du trappeur Hugh Glass, est attaqué par un ours et laissé pour mort par les membres de sa propre équipe. Dans le film de Michael Punk, qu'il a réalisé en 2002, la scène de l'attaque de l'ours est interminable, limite insupportable. Avec Nastassia Martin, rien de tout cela. Et sans trop vous divulguer le contenu du récit, la scène de la rencontre avec l'ours arrive très tard dans le livre, car Nastassia Martin ne met pas l'accent sur l'atrocité du combat, mais plutôt sur tout ce qui se passe juste après et dans les mois qui suivent. Nastassia Martin est une anthropologue, disciple de Philippe Descola, et spécialiste des populations arctiques en voie de disparition. Elle étudie notamment l'animisme, présent chez ces peuples qui vivent en forêt, dans des milieux souvent hostiles, au milieu des animaux. Croire aux fauves n'est pas son premier récit. En 2016, elle avait publié un essai, Les âmes sauvages, issu de sa thèse sous la direction de Philippe Descola, justement, sur les Gwich'ins, un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vit dans l'est de l'Alaska, et qu'elle a commencé à étudier en 2005. Ensuite, elle passera juste en face, en Russie, au Kamchatka précisément, pour y rencontrer les Evennes. Lors de sa rencontre avec l'ours, elle menait justement des recherches sur le peuple des Evennes, sur le massif du Kliouchevskoï, aux confins de la Sibérie. Nastassia Martin nous raconte d'ailleurs que selon les Evennes, après ce combat avec l'animal, elle serait devenue une mietka, c'est-à-dire qu'elle serait devenue mi-femme, mi-ours, celle qui se tient entre deux mondes. Nastassia Martin s'interroge donc sur la part d'ours en elle et les raisons de cette rencontre.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche, le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour quand pourtant mon sang est demeuré froid, mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant. Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
Bien sûr, si ce n'est déjà fait, je vous invite à lire « Croire aux fauves ». C'est un récit intense, déconcertant, qui résonne bien sûr face à nos vies standardisées, assaillies de numérique. Et puis, c'est une parole d'anthropologue à la portée de tous, qui redonne sa place au vivant, interrogeant notre rapport au monde. Alors, avant de clore cette émission, je vous propose d'écouter un deuxième et dernier extrait de « Croire aux fauves », lu par Antoine.
Hiver, la salpêtrière donc. Comment rassembler les images de ce lieu qui aurait dû être mon refuge et qui s'est révélé être l'apogée de ma descente aux enfers, dans l'ordre peut-être. À peine m'a-t-on laissé seul que j'entre dans la salle de bain et défais le bandeau qui entoure ma tête. Je n'ai pas encore vu mon crâne. Le tulle tombe sur le linoléum orangé. Je regarde par terre. Puis j'ose. Je relève peu à peu les yeux. Je fixe le miroir. J'ai les cheveux rasés à la garçonne, presque une coupe en brosse. Les cicatrices rouges du visage sont encore un peu gonflées. Celles du cuir chevelu sont en train de disparaître sous le duvet sombre qui repousse. Je m'effondre au sol et je laisse mes larmes tout inondées. Je pleure comme une petite fille abandonnée. Je pleure tout ce qui n'a pas pu être évité. Je pleure mon ours, mon visage d'avant perdu, mon existence antérieure, elle aussi certainement perdue. Je pleure tout ce qui ne sera plus jamais pareil. Je passe ma paume sur mes cheveux ras. Je sens cette drôle de sensation de chatouillis du crâne au toucher qui donne envie de recommencer encore et encore. Je me rappelle à la vie. Je me lève, me regarde une nouvelle fois dans le miroir, me retourne, actionne la poignée de la salle de bain et décide de faire face à cet hôpital avec ce visage-là. Comme c'est un ours qui débarque à la salpêtrière par l'intermédiaire de mon corps, et qu'en plus c'est un ours russe, le personnel de l'hôpital met toutes les procédures de sécurité et de prévention en place. Je suis en quarantaine. La plante verte et la cacha de Petropavlovsk sont loin. On ne plaisante pas avec l'hygiène et la sécurité ici. Chaque fois que les infirmières entrent, elles se vêtent de papier bleu qu'elles jettent en sortant. Le papier, c'est du non tissé. C'est le compagnon de ma mère qui me l'a dit parce qu'il a longtemps travaillé dans le domaine. Mes gardiennes mettent aussi des gants, des chaussons, des masques. Elles enjoignent à mes proches de faire de même, mais heureusement, ils ne s'y conforment pas. Ils résistent à la violence du non tissé et du masque, pour moi. Je me sens comme un animal sauvage qu'on aurait attrapé et placé sous un néon blafard afin de l'observer à la loupe. Tout hurle en moi. Les lumières blanches des halogènes me brûlent les yeux, la peau. Je voudrais disparaître. Je voudrais retourner dans la nuit arctique, sans soleil et sans électricité. Je pense aux bougies. Ce serait tellement plus doux si je pouvais me cacher. Je me ressaisis la nuit quand tout s'éteint enfin, quand les allées et venues cessent. Je fixe un point dans le noir. Je pars sous la terre. Je parle à mon ours.
Merci à Antoine pour sa participation et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle tranche, toujours sur l'autre radio.